Europe 1 Sport,
Virginie Fulpin.
Europe 1 Sport jusqu'à 23h, ravi de passer cette soirée avec vous. On va ouvrir une page rugby pendant une demi-heure avec nos invités que j'accueille en studio. Manon Fossat, bonsoir.
Bonsoir Virginie.
Mathieu Blin, bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous, Serge Blanco, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, on est à un an de la Coupe du Monde de rugby en France. C'est le parquet national financier vient de requérir 3 ans de prison, dont un ferme contre le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, et contre Moed Altrad, le président de Montpellier. Avant d'entendre nos invités, Colin Abgral, vous allez nous réexpliquer l'affaire.
Oui, pour que nos auditeurs comprennent bien les débats qui vont suivre, hein, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, qui comparaît donc en ce moment pour 2 chefs d'accusation principaux, le corruption et trafic d'influence. Concrètement, les faits remontent pour la plupart à 2017. Le premier dossier, c'est celui du groupe de BTP Altrad, propriété du richissime Moed Altrad, qui est un ami de Bernard Laporte. Le groupe devient en mars 2017 le sponsor officiel du maillot du 15 de France. Premier contrat de sponsoring maillot de l'histoire du 15 qui s'élevait à hauteur de 1,8 million d'euros. Problème, Laporte n'en aurait jamais avisé sa direction marketing. Et un deuxième contrat est même signé dans les mêmes conditions, bien plus juteux cette fois-ci. 35 millions d'euros signés en 2018, un sponsoring apparemment favorisé par Laporte envers son ami Altrad. Et ça, c'est la première affaire de corruption. La deuxième, elle concerne également Moed Altrad, qui est co-prévenu aux côtés de Bernard Laporte. L'homme d'affaires est également propriétaire et dirigeant du club de rugby du Montpellier Hérault, qui évolue en top 14. Et là encore, la relation entre les deux hommes a fonctionné en faveur de Montpellier. Par exemple, en juin 2017, la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby inflige une amende de 70 000 euros en appel au club montpelliérain. Mais après un appel téléphonique du président de la fédération Bernard Laporte, cette amende passe de 70 000 à 20 000 euros. Et cette affaire n'est pas la seule concernant le club de Montpellier. Son dirigeant Moed Altrad et Bernard Laporte et même les deux ensemble. Il y a plusieurs affaires que je ne pourrais pas malheureusement toutes vous énumérer, mais ce sont ces faits-là qui ont éveillé les soupçons du parquet national financier qui s'est auto-saisi fin 2017 pour démarrer cette enquête qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, jour des réquisitions pour Laporte et Altrad qui encourt donc 3 ans de prison chacun, dont une année ferme. À noter également, Virginie, que 2 ans de prison avec une année en sursis ont été requis pour Claude Haché, récemment suspendu, lui, de ses fonctions de directeur général de la Coupe du Monde 2023, et Serge Simon, vice-président de la Fédération. Et puis, dernière information, c'est que le jugement définitif sera lui attendu avant au moins la fin de l'année.
Merci Colin Abgral de nous avoir rappelé ces faits. Serge Blanco, je vais d'abord m'adresser à vous. Je le répète, on est à un an de la Coupe du Monde en France. Le 15 de France fait partie des favoris pour gagner pour la première fois ce mondial. Et on a 3 ans de prison, dont un ferme requis dans le même temps contre le président de la Fédération française de rugby. Ce sont des réquisitions, hein, pas un jugement. Ça ne peut que vous interpeller, cette concomitance, quand même, non ?
Ça fait un moment que ça m'interpelle, mais surtout ça m'attriste, parce que on est en train de montrer un visage du rugby français qui n'est pas le nôtre. Je pense qu'il y a des décennies d'honnêteté qui, peut-être, sur un simple procès, risque de nuire à l'image qu'on a vue jusqu'à maintenant. Et puis, il y a surtout cette Coupe du Monde, alors... J'espère que, d'abord, il ne faut pas le condamner, puisque, comme vous l'avez dit, hein, ce ne sont que des réquisitions du procureur. La défense va œuvrer demain, mais je crois qu'il va falloir se poser quelques questions, quoi qu'il y ait comme réponse, et quel que soit le verdict que donnera le juge au bout d'un mois ou 2 mois.
Se poser quelques questions, qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que Bernard Laporte peut rester président de la Fédération française de rugby ?
C'est quand même trop tôt pour dire tout cela. Je pense qu'il ne faut pas condamner les gens avant qu'ils ne soient jugés par des magistrats. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la Fédération a besoin d'un coup de neuf, un coup de jeune, et de repartir pour démontrer au monde du rugby et surtout pour démontrer à ses propres clubs que le rugby ne se passe pas uniquement comme ça a pu... l'être pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'image que l'on a envie de donner du rugby français soit une image qui soit sereine, avec de l'ambition et qui permette à des jeunes de se retrouver. à travers surtout les résultats de l'équipe de France, parce que nous avons quand même une équipe de France qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est une des favorites de la prochaine Coupe du Monde. Et moi, je crois que cette équipe-là doit nous permettre de passer ce cap. Alors après, il faut que tout le monde soit conscient de tout cela et puis que tout le monde fasse en sorte qu'on puisse avancer. Vous savez, je veux dire juste un petit mot qui me chagrine, parce que nous avons demandé, l'opposition que nous sommes depuis plusieurs années, nous avons demandé d'être mis au courant par rapport au procès. Nous avons insisté pour que nous soyons informés de tout cela, et puis on s'aperçoit qu'aucune communication n'a été faite, alors que notre secrétaire général, M. Duller, était mis au courant tous les jours. Et on nous a rétorqué que c'était difficile de pouvoir communiquer. Seul le comité directeur est en droit aujourd'hui d'être au courant de tout ce qui a été dit pendant le procès, et non pas uniquement qu'une ou deux personnes. Donc tout cela, il va falloir le rayer, le gommer et voir différemment.
Mathieu Blin, Serge Blanco parle de coups de neuf nécessaires à la fédération, d'image ternie du rugby français alors qu'on est à un an de la Coupe du Monde. Vous partagez ce sentiment ?
Je partage en tout cas que les institutions, quelles qu'elles soient, sport confondu ou autres sujets, sont de plus en plus ternies, ce qui veut dire que quand même, il y a certainement un mouvement, une dynamique collective qui est en train de se mettre en place pour demander une éternelle exemplarité des hommes et des femmes qui se présentent à nous pour pouvoir après avoir des fonctions très importantes. On verra évidemment ce que décidera la présidente Rosemary Huneau, si elle suit ou non les réquisitions des deux procureurs. On verra évidemment aussi comment la défense organise tout son dialogue et toutes ses demandes d'appel ou autres. Je sais que en lisant les articles, les défenses vont certainement demander la relaxe. Par rapport à ce que dit Serge, je suis un tout petit peu moins inquiet sur le côté organisation de notre équipe de France, qui est quand même le moteur absolu sur une compétition qui est dans les trois plus gros événements mondiaux, avec la Coupe du Monde de foot, avec les JO bien entendu, et l'organisation de Fabien Galthié et de son staff et de tout ce qui s'est fait autour de la FFR et de la LNR depuis maintenant un petit moment, nous amène une équipe de France qui est extrêmement compétitive. J'espère qu'il va y avoir... non pas des barricades, mais en tout cas de gros paravents entre le sportif. Serge connaît parfaitement que les sportifs ont besoin d'être totalement fixés sur cet objectif du terrain, qu'il n'y aura pas de mélange de genre, qu'il n'y aura pas d'ingérence. Mais évidemment que dans une situation comme celle-ci, que Serge Blanco, grand dirigeant du rugby français, et tous les rugbymen et rugbywomen en France demandent une clarté et quelque chose de plus serein, c'est assez évident.
Serge Blanco ?
Oui.
On va...
T'es d'accord avec ce que j'ai dit ou pas?
Oui, je suis d'accord, mais je voulais surtout pas parler de la partie sportive, parce que la partie sportive, en toute honnêteté, moi je fais confiance à Fabien Galthié, à toute son équipe.
Pour vous, il n'y a pas de porosité entre les affaires, le procès et le 15
non.
de France?
Non. Honnêtement, je ne pense pas. Je crois que les joueurs ont un objectif. Vous savez, jouer une Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a la chance d'avoir une superbe génération. On a un entraîneur et des assesseurs, cet entraîneur qui font du bon boulot. Je ne pense pas qu'on va gâcher cette possibilité en tout cas, je l'espère, qu'on ne va pas gâcher cette possibilité de devenir peut-être champion du monde. Moi, je pense à l'avenir. Et l'avenir aujourd'hui, c'est les clubs, c'est la formation des jeunes. C'est aussi les partenaires que nous avons au niveau de la fédération. Parce que ces partenaires-là, peut-être aujourd'hui, se sentent-ils lésés par rapport à ce qui s'est passé. Alors, sans dire quoi que ce soit, parce que c'est vrai que, de toute façon, le résultat sera dans 2 mois. Le résultat de toute cette histoire, sans vouloir aller trop vite et plus vite que la musique, je pense qu'il faut surtout essayer de faire en sorte qu'aujourd'hui les clubs se sentent rassurés. Et comment vont-ils pouvoir se sentir rassurés? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que de toute façon, quoi qu'il advienne, il y aura des appels qui seront faits, hein, c'est tout à fait normal, mais quand on voit les réquisitions et les sanctions qui sont demandées, notamment en termes de gestion, parce que je vous dis franchement, moi, je ne souhaite pas pour eux qu'ils aillent en prison, ce n'est pas le but, mais quand même, s'il y a anguille sous roche, obligatoirement, on est en droit de se poser certaines questions. Est-ce qu'ils peuvent rester, est-ce qu'ils ne peuvent pas rester? Donc voilà, c'est juste par rapport à ça. Et moi, c'est la question que je pose ouvertement.
Je vous propose de parler maintenant du 15 de France, plutôt côté terrain ou côté infirmerie d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de blessés parmi les internationaux français. Manon Fossat, est-ce qu'on les protège assez, nos internationaux, à un an de la Coupe du Monde?
Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu l'hécatombe en ce moment, surtout avec cette troisième journée. On a eu Romain Taofifénois, Nolan Le Garec, Arthur Vincent, dont on a appris aujourd'hui d'ailleurs qu'il allait rater le tournoi d'automne. Il en a pour 2 mois. Je pense qu'il y a plusieurs... Déjà, c'est pas rare de se blesser, d'avoir des joueurs qui malheureusement se blessent en début de saison. Il y a eu plusieurs semaines sans contact, les organismes ne sont plus habitués. Donc malheureusement pour eux, ça arrive. Après, on a cette question, elle revient tout le temps. Il y a plusieurs options qui sont sur la table. Celle de ménager peut-être les joueurs pendant les rencontres, donc en les faisant peut-être sortir avant. Mais pour ça, il faut que le match soit scellé du point de vue des clubs, si on se place du point de vue de l'intérêt du club. Et sinon, l'autre option, c'est de les faire tourner. Mais on a vu ce week-end avec Toulouse et le déplacement à Pau, Hugo Mola a voulu faire tourner un petit peu son équipe. Antoine Dupont, Anthony Jelonge ont commencé sur le banc. Bon, ben, résultat, Toulouse est reparti de Pau sans points. On peut imaginer que ces joueurs-là seront titulaires sur les prochaines rencontres. Et voilà, la question, c'est où sont les intérêts du club? Comment on fait pour organiser ces rotations? Ça semble compliqué aujourd'hui. Et après, il y a un autre facteur aussi. Laurent Labitte l'a dit aujourd'hui lors de sa conférence de presse à Aix-en-Provence, lors du stage des Bleus. Il a dit qu'il n'était pas inquiet et que justement, bon, il faisait une équipe « premium » entre guillemets, et qu'il développait aussi une autre équipe à côté. Donc, bon, ben, on comprend que le staff de l'équipe de France a aussi envie de faire tourner. Fabien Galthié l'a dit, de voir peut-être éclore des pépites, des ovnis. Bon, ben, ça va être le moment aussi de le faire. Et c'est aussi peut-être une façon de protéger les habituels titulaires et de faire tourner un petit peu.
Les clubs, Mathieu Blin, c'est les employeurs des joueurs. Est-ce qu'on peut tout leur demander au nom de l'intérêt supérieur du 15 de France et du rugby français?
On peut toujours tout demander. En tout cas, les relations entre la FFR et la LNR ont fait quand même avancer les choses de manière assez significative, pour ne pas dire assez exceptionnelle. Manon vient de le dire, il y a une équipe type, on va dire, et toute une troupe de réservistes. Sauf que ces réservistes jouent beaucoup et sont intégrés sur des tournées d'automne ou des tournées d'été, ce qui fait que leur niveau individuel ne cesse que de monter. Dans la convention LNR-FFR, il y a 42 joueurs qui, le 25 juin 2023, seront mis à disposition pendant toute une partie estivale avec 4 matchs amicaux. Le 28 août, quand il y aura la liste des 33 joueurs, ça va évidemment être refermé et le championnat va reprendre sur 3 journées. Et pendant ces 3 journées, entre 9 et 14 joueurs pourront et être en semaine avec l'équipe de France et repartir dans leur club. Et après, le championnat, lui, s'arrêtera. Ça, ce sera pendant, en amont et pendant la compétition. Ce qui n'a pas été aller jusqu'au bout, et pour l'instant, on n'a pas réussi à l'organiser, c'est éventuellement qu'il y ait un nombre de minutes maximum ou un nombre de matchs maximum pendant cette année 2022-2023 pour que certains soient protégés. Mais on le sait très bien, Serge était président de la Ligue nationale de rugby, j'ai été président du syndicat, ça fait 20 ans que la quadrature du cercle de une compétition avec beaucoup trop de matchs, avec une non-harmonisation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, font que les joueurs français jouent trop, et jouent trop évidemment à un an d'une Coupe du Monde.
Serge Blanco, est-ce qu'on peut envisager un nombre de matchs maximum, par exemple, pour les internationaux pendant la saison qui précède une Coupe du Monde? Enfin, ça ne va pas être fait maintenant, mais est-ce qu'on aurait pu envisager?
On peut toujours envisager. Mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les joueurs sont la propriété des clubs. Et je pense que les clubs et la fédération, à travers certains déplacements de l'entraîneur national, ont fait beaucoup d'efforts pour ménager un certain nombre de joueurs. Alors c'est vrai qu'on se retrouve dans des positions difficiles puisque les clubs attendent des résultats. Ces résultats ne viennent pas parce qu'on a pris la précaution de mettre des joueurs sur la touche. Et c'est une rengaine, comme on disait jusqu'à maintenant, c'est une rengaine qui recommence année après année. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'International Board envisage peut-être de limiter le nombre de minutes jouées sur des matchs, en tout cas sur une saison. Je crois que ça pourrait peut-être permettre aux joueurs d'être disponibles pour plusieurs compétitions.
Il faudra voir, il faudra voir si au niveau du droit du travail, c'est quelque chose qui est accepté
entre
la perméabilité d'une directive d'une institution et le droit français.
On est complètement d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il faut essayer d'être raisonnable. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut que un certain nombre de joueurs soient compétitifs et puissent défendre et porter les couleurs de l'équipe de France, on peut très bien aussi descendre à un championnat avec 11 équipes. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire deux équipes de deux poules de 8. Le tout, c'est de savoir très exactement, parce que le droit français est là, et tu l'as rappelé, Mathieu. Mais moi, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, il faudrait véritablement saucissonner les saisons, avoir une partie club et une partie internationale. Mais après, quid du temps que les joueurs ne passent pas avec l'équipe de France, quid des autres joueurs qui ne sont pas sélectionnés.
Juste très très rapidement, on se pose cette question-là par rapport à l'équité entre les nations, puisque à l'époque de Serge, qui a fait plusieurs Coupes du Monde, et évidemment la première avec ce match extraordinaire contre l'Australie en 1987, à peu près toutes les nations jouaient à peu près le même nombre de matchs et le championnat domestique était déjà assez rude en France et ça ne s'appelait pas le top 14. Là, il y a une vraie différence entre les nations, c'est-à-dire que les provinces irlandaises, les néo-zélandais, les australiens, les sud-africains, ils sont sous contrat avec leur fédération et tout est fait soit pour la Coupe d'Europe, soit pour ces grands rendez-vous internationaux. Alors que, et c'est une très grosse richesse dans la culture du rugby français, le championnat domestique fait que les joueurs, eux, jouent beaucoup plus que leurs adversaires et ce n'est pas équitable. Et c'est pour ça qu'on se pose la question.
Et cette question, on se la pose depuis un moment. On va continuer à se la poser longtemps. La Coupe du Monde, c'est dans un an. Le top 14, c'est maintenant. Et je vous propose d'en parler maintenant. La Rochelle, leader du top 14. Est-ce que le stade Rochelet est le symbole des lendemains qui chantent? Il y a eu la victoire en Champions Club, qui n'était pas en Champions Cup, pardon, ouais. Je vais y arriver. C'était pas un sacre sans lendemain. Hein. Trois journées, trois victoires là, en top 14. Ce qui s'appelle une rentrée en fanfare, hein, Manon Fossat.
Oui, c'est une rentrée en fanfare, Virginie, mais en même temps, on n'en attendait pas moins non plus du Stade Rochelet. Tu l'as dit, ils sont champions d'Europe en titre. Voilà, ils ont gagné contre Montpellier, contre Lyon, contre Perpignan. Ils ont déroulé ce week-end, on l'a vu, contre l'USAP. Mais en même temps, La Rochelle, c'est une équipe qu'on a vu monter en puissance là, depuis 3-4 saisons, qui est riche de ses cadres, Aldrit, Bourgarit, Skelton, qui a la rigueur de d'O'Gara. Donc, pas une surprise que La Rochelle démarre comme ça la saison. Après, est-ce que leader pour longtemps, c'est un petit peu difficile à le dire. C'est peut-être un peu tôt pour le dire. On se souvient de Castres la saison dernière qui a longtemps été leader aussi du championnat qui, au final, n'a pas gagné le Brennus. Bon, je pense que c'est un peu tôt. Et puis surtout, cette question, il va falloir se la poser au moment de la tournée. La question, ça va être est-ce que La Rochelle peut tenir le rythme quand elle va justement être privée de ses internationaux? Est-ce qu'elle est tributaire de ces joueurs-là qui vont partir avec les Bleus ou non? Et cette question, elle vaut d'ailleurs pour toutes les équipes qui sont des réservoirs équipe de France.
Et puis on en saura peut-être un peu plus aussi ce week-end, puisque La Rochelle joue à Clermont, citadelle imprenable depuis un petit moment, plus d'un an, où La Rochelle n'a jamais gagné. Mathieu Blanc, on en saura plus aussi à ce moment-là?
En tout cas, ils vont être attendus chaque week-end, et vous avez raison Virginie de dire que on attend le suivant pour savoir si oui ou non ils tiennent ce rang-là. Par rapport à ce que disait Manon, c'est très très important. Elle parlait finalement de l'effectif. Le match de ce week-end, c'est seulement 5 titulaires qui avaient gagné au Loup, à Lyon, le week-end précédent. Et il y avait des joueurs comme Tanga, Dulin, Carbarlo, qui est international néo-zélandais, qui eux n'étaient même pas dans le groupe, ils étaient en tribune. Ce qui montre bien la grosseur de l'effectif sportif du club de La Rochelle. Et on sait aussi que c'est un modèle, Serge ne me dira pas le contraire, de développement de club, puisque c'est un record de guichets fermés depuis plusieurs années. C'est un partenariat qui est extrêmement développé, mais avec une minimisation des risques, puisqu'il n'y a pas qu'un seul mécène, mais il y a plusieurs sponsors qui mettent en place des capitaux propres très importants. Il y a plus de 700 partenaires, il y a un président qui est président depuis 30 ans, un directeur général qui l'est depuis 10 ans. Donc il y a aussi tous les ingrédients, comme on dit dans le monde du sport, pour ne pas parler de recettes, qui font que cette solidité n'est pas naissante. En 2013-2014, j'étais manager du club d'Agen et on était en finale de Pro D2. On avait pris une sacrée danse par La Rochelle qu'on avait battue pourtant pendant la saison régulière deux fois de suite. C'était en 2013-2014. Agen est encore en Pro D2 et a flirté le fait d'être relégué relégué en national, La Rochelle est champion d'Europe.
Je rebondis sur ce que dit Mathieu. C'est vrai qu'ils ont perdu en plus pas mal de joueurs à l'intersaison. Enfin, pas mal sont partis, ouest, tiers. Et ils n'ont pas forcément recruté poste pour poste non plus. Donc ils ont un effectif dense, mais ils n'ont pas forcément récupéré les joueurs qu'ils ont perdus poste pour poste. Donc à voir aussi ce que ça donne au moment de ces doublons.
Moi, Serge Blanco.
Manon, je partage pas forcément cet avis-là parce que je pense que la grande force de La Rochelle, c'est de travailler dans la continuité et d'avoir surtout l'intelligence de recruter chaque année un, deux, voire trois joueurs qui viennent étoffer leur effectif. Et cette année, je vais prendre trois exemples qui sont simples. Hein. Le premier, c'est Antoine Astoy. Antoine Astoy est un joueur proté. On peut considérer qu'il fait partie des trois meilleurs joueurs français. En plus, à l'inverse de ce qui se faisait les saisons précédentes, Antoine Astoy est un buteur. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il affiche 85% de taux de réussite, ce qui est énorme et ce qui permet toujours à une équipe qui maltraite les autres équipes à travers ses avants, une certaine domination, d'asseoir véritablement le fait qu'ils sont récompensés par rapport à ce qu'ils font. Après, ils ont un troisième ligne, Tanga Johan, le troisième ligne qui est pétri de qualité. Et puis après, ils ont une autre belle pite, c'est Eli Thomas. Et si vous vous souvenez bien un petit peu de ce qui se passait les années précédentes, on s'apercevait que dans la finition, La Rochelle avait pas mal de problèmes. Il dominait souvent, mais il n'arrivait jamais à concrétiser cette domination. Et je crois que là, avec ses renforts, plus tous les autres qui sont arrivés avant, et puis la maîtrise de certains joueurs qui sont les joueurs cadres, je crois que c'est une équipe, à mon sens, sur laquelle il faudra compter jusqu'à la fin de la saison.
J'entends Serge par rapport au recrutement d'Astoy et en même temps il le fallait parce qu'ils ont, ils ont West et Plisson qui sont partis et qui étaient quand même les buteurs de cette équipe.
Oui, je pense qu'ils ont laissé partir à mon avis.
Je voudrais quand même qu'on parle d'une belle histoire de ce week-end, c'est celle de Mathieu Bastaro de retour sur le terrain à Toulon. Mathieu Blin, on ne pensait pas forcément le revoir aussi vite. Ça fait il y a 10 mois, il a eu une très grave blessure aux deux genoux. On ne savait même pas s'il allait remarcher. Donc le voir là sur le terrain, ça, qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'était évidemment très émouvant pour moi puisque c'était un petit frère du Stade français que j'ai accueilli quand je jouais et qui évidemment a pris toute son ampleur, tout son envol. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de connexions. Rappelez-vous de cette malheureuse histoire, sombre histoire de 2011, retour de Nouvelle-Zélande où j'ai été très très proche de lui dans un moment très très douloureux qui dépasse bien sûr les enjeux sportifs. Il ne savait pas s'il allait pouvoir remarcher. Il expliquait qu'il ne savait pas s'il pouvait ne serait-ce que courir et jouer tout simplement avec son fiston puisque c'est un jeune padré comme on dit. Donc ça, à mon avis, ça lui a donné évidemment beaucoup 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 d'énergie pour pouvoir revenir sur le terrain et sur le terrain qui l'a fait sacré champion d'Europe à trois reprises, c'est-à-dire le RCT. Et on sait la passion que Toulon peut amener envers ses joueurs. C'est un symbole du rugby français. C'est quelqu'un qui a été soit adulé, aimé, soit détesté. On a dit de lui qu'il était trop lourd et trop solide et qu'il ne savait pas jouer. Et bah, écoutez, il n'a pas joué depuis presque un an. On ne savait pas s'il allait pouvoir reprendre. Il a fait un premier contest qui a été extrêmement positif pour son équipe. Il a fait un jeu au pied, pied gauche, qui a permis d'enchaîner sur une grosse pénalité. Bref, il a fait un retour extrêmement gagnant à un nouveau poste, puisqu'il est troisième ligne centre et sa densité, pour le coup, ses 120 kilos, font mal et ne font que amener beaucoup de choses à Toulon, qui peut en avoir besoin d'ailleurs.
Je crois qu'on va rester sur cette belle image-là du rugby. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Europe 1 Sport. Manon Fossat, Serge Blanco, Mathieu Blin. Merci beaucoup. Nous, on va parler tennis dans un instant et je crois qu'on va un petit peu pleurer même, je vais vous le dire, cette Europe 1 Sport.